Chapitre 6. Un homme, le mulet et quelqu'un d'autre. Deux hommes apparemment détendus, parfaitement à l'aise. Deux hommes que tout opposait sur le plan physique. Deux hommes dont la moindre terminaison nerveuse était en réalité un capteur d'émotions sollicité pour l'heure au-delà de toute limite. Pour la première fois depuis de longues années, le mulet n'avait pas une vision suffisamment claire de la route à suivre. Chanis le savait. Cependant, s'il pouvait momentanément en tirer avantage, c'était au prix d'un effort considérable. Et il n'ignorait pas davantage que l'assaut médité par son adversaire ne lui coûterait guère. Dans une épreuve d'endurance, il était vaincu d'avance. Mais nourrir de telles pensées constituait en soi, pour lui, un péril mortel. Trahir la moindre faiblesse, c'était armer son adversaire. Déjà, dans l'esprit du mulet, brillait cette petite lueur familière, l'esprit du vainqueur. Gagner du temps. Qu'est-ce qui retardait les autres ? À quelle source le mulet puisait-il sa confiance ? Que savait son adversaire qu'il ignorait lui-même ? L'intellect qu'il observait ne lui révélait rien. Si seulement il pouvait lire les pensées. Et pourtant, Chanis donna un brutal coup d'arrêt au tourbillon infernal de ses pensées. Se concentrer sur un seul objectif, gagner du temps. « Puisqu'il est avéré, dit-il, et je ne le nie plus, depuis notre petit duel à propos de Preacher, que j'appartiens à la seconde fondation. Voyons si vous pourriez m'expliquer les raisons qui ont motivé ma venue sur Finstellis. »« N'y comptez pas, » s'exclama le mulet en éclatant de rire, visiblement pleinement confiant en sa propre réussite. Je ne suis pas Preacher. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Vous aviez vos raisons? Je ne m'inquiète pas de leur bien fondé. Votre comportement favorisait mes desseins? Et je n'en demande pas plus. Cependant, la trame de l'histoire, telle que vous la concevez, doit bien comporter quelques lacunes. Finstellis, est-elle bien la seconde fondation que vous vous attendiez à trouver ? Preacher ne tarissait pas sur vos précédentes et infructueuses tentatives sur votre psychologue et Blingmiss. Oui, Preacher s'est montré bavard un peu grâce au léger encouragement que je lui ai prodigué. Allons, premier citoyen, parlez-moi donc un peu des Blingmiss. Pourquoi cela, s'il vous plaît ? Confiance. Chanis sentait cette confiance émerger en terrain découvert, comme si l'anxiété éprouvée par le mulet s'effaçait progressivement avec le temps. Il s'exprima d'une voix ferme, s'efforçant de refouler le désespoir qu'il sentait monter en lui. Vous manquez donc à ce point de curiosité ? Preacher m'a parlé de l'énorme surprise ressentie par Miss lorsqu'il avait appris quelque chose. Il avait hâte d'avertir au plus tôt la seconde fondation. Cela semblait vital pour lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Ebling Miss est mort. La seconde fondation n'a pas été avertie. Et cependant, elle existe encore. Avec beaucoup de franchise, le mulet se permit de sourire. Un sourire de satisfaction suivi d'un accès soudain et surprenant de cruauté que Chanis sentit surgir puis refluer. Il m'apparaît, au contraire, que la seconde fondation a bel et bien reçu l'avertissement en question. Comment expliquer autrement l'arrivée à Kalgan d'un certain Bale Chanis, chargé d'influencer l'intellect de mes subordonnés ? Et d'assumer la tâche plutôt ingrate de me battre à mon propre jeu. L'avertissement est arrivé trop tard, voilà tout. Chanis, donnant libre cours au sentiment de pitié qu'il sentait l'envahir, répondit alors « Dans ce cas, vous ignorez jusqu'à la nature même de la seconde fondation. Vous ne savez rien du sens profond des mesures qui ont été prises. Gagnez du temps. » Le mulet perçut la pitié de l'autre et ses yeux se plissèrent d'une hostilité immédiate. Il se frictionna le nez d'un geste familier, y consacrant généreusement quatre doigts à la fois, et dit d'une voix cinglante « À votre aise, qu'en est-il de la seconde fondation ?» Délibérément, Tchanis choisit d'avoir recours aux mots plutôt qu'aux symboles émotionnels. « Si je suis bien informé, c'est surtout le mystère qui entourait la seconde fondation qui intriguait le vieil Ebling Miss. Harry Seldon avait établi ces deux institutions selon des conceptions radicalement différentes. La première fondation, telle un météore flamboyant, avait ébloui toute la galaxie. La seconde demeurait une énigme, un abîme de ténèbres insondables. » Il vous serait impossible de comprendre la raison de cette conduite sans ressusciter l'atmosphère intellectuelle qui régnait dans les derniers temps de l'Empire. L'époque était au concept absolu. C'était l'heure des grandes affirmations, des généralités définitives, du moins dans le domaine de la pensée. Voilà bien le fait d'une culture décadente, d'ailleurs, s'opposer par tous les moyens au progrès des idées. C'est pour s'être opposé à cela, justement, que Seldon devint célèbre. Cette ultime étincelle de création juvénile, jaillie de son cerveau, a éclairé l'Empire d'une lueur crépusculaire qui faisait vaguement pressentir le soleil levant du Second Empire.
Jolie phrase. Vous devriez écrire, vous savez. Et ensuite ?
Seldon a alors créé ses fondations en se basant sur les lois de la psychohistoire. Mais qui mieux que lui savait que ces lois ne sont que toutes relatives? Il n'a jamais été dans son intention de créer un produit fini. Les produits finis conviennent aux esprits décadents. Lui avait mis sur pied un mécanisme évolutif dont la seconde fondation devait être l'instrument, c'est nous, ô premiers citoyens de l'Union, temporaires des mondes, qui sommes les gardiens du plan Seldon, nous, et nous seuls.
Essayez-vous de vous donner du courage ?
Demanda le mulet avec dédain.
Ou cherchez-vous à m'impressionner, car, sachez-le, la seconde fondation, le plan Seldon, le Second Empire, tout cela me laisse parfaitement indifférent. Et n'éveille en moi aucune compassion, aucune sympathie, aucun sentiment de responsabilité. Vous n'avez rien à attendre de ce côté-là.
Et d'ailleurs, pauvre imbécile, vous pouvez maintenant parler au passé de la seconde fondation, car elle est anéantie. Tchanis sentit le potentiel d'émotion qui assaillait son esprit croître en intensité, tandis que le mulet se levait de sa chaise et s'approchait de lui. Il se défendait furieusement. Mais quelque chose se glissait implacablement dans les replis de sa conscience, répétant inlassablement ses assauts, poussant son esprit dans ses derniers retranchements. Il sentit le mur derrière lui, et le mulet lui fit face. Décharné. Les bras en croix, un sourire terrible soulevant son nez monumental.
« La partie est terminée, Tchanis, dit-il. Vous l'avez perdue, vous et tous les membres de la ci-devant seconde fondation, car la seconde fondation n'est plus. Elle n'est plus. » Pourquoi avoir tant attendu ici?
Pourquoi tous ces bavardages avec Preacher alors que vous auriez pu le terrasser et lui arracher le désintégrateur sans le moindre effort physique?
Vous m'attendiez, n'est-ce pas? mais il ne fallait pas que je trouve en entrant une situation susceptible d'éveiller mes soupçons. Malheureusement pour vous, mes soupçons n'avaient pas besoin de cela. Je vous connaissais. Je vous connaissais bien, Chanis de la Seconde Fondation. Mais qu'attendez-vous maintenant? Vous me bombardez désespérément de mots, comme si le seul son de votre voix pouvait suffire à me pétrifier sur ma chaise. Et pendant que vous discourez, une partie de votre esprit attend, attend, attend toujours, mais personne ne viendra, aucun de ceux que vous attendez, aucun de vos alliés. Vous êtes seul, Chanis, et vous allez le rester. Savez-vous au moins pourquoi? Parce que votre fondation s'est méprise sur mon compte jusqu'au dernier moment. Je savais ce qu'ils projetaient dès le départ. Ils ont cru que j'allais vous suivre jusqu'ici bien gentiment et que j'allais leur tomber tout rôti dans le bec. Vous teniez le rôle de leur. Pourquoi se donner plus de mal, finalement, quand il ne s'agissait que d'attirer un pauvre mutant dégénéré, assez stupide pour se jeter les yeux fermés à la poursuite de l'Empire et s'en aller choir de lui-même dans la plus grossière chausse-trappe? Mais suis-je leur prisonnier? Leur est-il seulement venu à l'esprit que je n'aurais garde de m'aventurer ici sans l'escorte de ma flotte? Quand je sais que l'artillerie d'un seul de mes vaisseaux suffirait à les réduire à l'impuissance la plus totale? Ont-ils seulement pensé que je ne m'attarderais pas à de vaines discussions, que je n'attendrais pas la suite des événements les bras croisés? Il y a 12 heures, mes vaisseaux ont été lancés contre Finstellis, et leur mission est déjà complètement terminée. Finstellis est en ruine. Tous les grands centres urbains ont été anéantis. La planète n'a opposé aucune résistance. La Seconde Fondation a vécu, Chanis. Et c'est moi, l'impotent, le difforme, qui suit désormais le chef de toute la galaxie. Chanis ne pouvait rien faire d'autre que de secouer la tête faiblement. Non. Non, mais si. Et, dit le mulet en l'imitant, il se peut d'ailleurs que vous soyez le dernier survivant. Si c'est le cas, profitez-en, cela ne va pas durer. Vous n'en avez plus pour longtemps, vous non plus. Un lourd silence suivit. Et Chanis faillit crier sous la douleur fulgurante que lui causait la pénétration déchirante des replis les plus secrets de son cerveau. Le mulet recula en murmurant. Non. Ce n'est pas suffisant, l'épreuve n'est pas concluante. Votre désespoir n'est qu'une façade. La terreur que vous ressentez n'a rien à voir avec ce sentiment bouleversant qui accompagne la destruction d'un idéal, non? Ce que vous ressentez là n'est que cette petite peur égoïste et mesquine que suscite l'instinct de conservation. De sa petite main sans force, le mulet saisit alors Chanis à la gorge, sans que celui-ci pût se libérer de cette étreinte pourtant dérisoire. « Vous êtes ma garantie, Chanis. Vous êtes ma sauvegarde contre toute erreur de jugement que je pourrais commettre. » Les yeux du mulet se vrillaient dans les siens, exigeants, insistants. « Ai-je calculé juste ? Chanis, ai-je vaincu vos pareils? Finstellis est détruite, Chanis rasée. Alors à quoi rime ce désespoir affecté? Où se trouve la réalité? Je dois connaître la vérité. La réalité. Il le faut. Vous m'entendez?
parler, Janice. Je vous l'ordonne. N'ai-je pas sondé votre esprit assez profondément? Le danger subsiste-t-il toujours? Parlez, Janice. Me suis-je trompé?
Janice sentit les mots s'échapper péniblement de sa bouche. Ils sortaient comme à regret. Il serrait les dents pour tenter de les retenir, il se mordait la langue, il contractait tous les muscles de sa gorge. Ils sortirent néanmoins, en s'entrechoquant, extraits par la force de sa gorge qu'il déchirait au passage, éraflant sa langue, heurtant douloureusement ses dents.
« La vérité !»
croissa-t-il.
« La vérité !» « Oui, la vérité !» Que reste-t-il encore à faire? Seldon a établi la seconde fondation ici même. Ici, comme je vous l'ai déjà dit. Je n'avais pas menti. Les psychologues sont venus et ont étendu leur autorité sur la population autochtone. Sur Finstellis?
Le mulet plongea profondément dans l'âme torturée de sa victime, lacérant sans pitié les replis les plus secrets de sa sensibilité.
« C'est Finstellis que j'ai détruite. Vous savez ce que je cherche, donnez-le-moi. Ce n'est pas Finstellis. Ce que j'ai dit, c'est que les membres de la seconde fondation pouvaient ne pas être ceux qui détiennent ostensiblement le pouvoir. Finstellis est la figure de proue. »
Les mots, à peine reconnaissables, se formaient, en dépit des efforts de volonté de Janice.
« Rossem, Rossem, c'est sur Rossem. »
Le mulet desserra son étreinte. Et Janice s'affaissa comme un paquet de chair torturée.
« Et vous pensiez réussir à me berner ?»
souffla le mulet. Dans un ultime sursaut de résistance, Janice répondit
« Nous avons réussi. »
« Mais pas pour longtemps.
Je suis en communication avec ma flotte. Après Finstellis, rien de plus facile que de mettre le cap sur Rossem. Mais, d'abord... »
Janice sentit un voile de ténèbres insoutenable s'élever devant ses yeux. Il porta machinalement la main à ses yeux douloureux, mais ce ne fut pas suffisant pour le protéger. Ces ténèbres-là l'étouffaient. Et tandis que son âme déchirée, tenaillée, s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres, il aperçut une ultime image du mulet, un mulet exultant, triomphant. Spectacle aberrant que cet avorton gros comme une allumette, secoué par un rire incoercible qui faisait trembler son interminable appendice nasal. Le bruit s'éloigna et l'obscurité l'enveloppa de son voile miséricordieux. L'évanouissement se termina par une sensation fulgurante, rappelant l'éclat brutal d'une torche, et Janice reprit lentement conscience en même temps que lui revenait l'usage de la vue. Il s'aperçut alors qu'il avait les yeux brouillés de larmes. Sa tête le faisait atrocement souffrir, et c'est au prix d'infinies souffrances qu'il parvint à y porter la main. De toute évidence, il était vivant. Telles des plumes emportées par un tourbillon de vent et qui finissent par se poser, légères et duveteuses sur le sol, ses pensées s'apaisèrent. Il se sentit pénétré par un sentiment de réconfort. Lentement, avec des peines infinies, il tourna la tête et le soulagement qu'il ressentit lui donna un coup au cœur. Car la porte était ouverte et le premier orateur se tenait debout sur le seuil. Il voulut parler, crier, l'avertir, mais sa langue se figea, et il sut qu'il était toujours prisonnier de l'esprit tout-puissant du mulet qui bloquait en lui toute velléité de parole. Il tourna encore la tête. Le mulet était toujours dans la pièce. Il était furieux. Ses yeux étincelaient. Il ne riait plus. Mais un rictus féroce découvrait ses dents. Chanis sentit l'influence mentale du premier orateur effleurer son esprit d'une caresse apaisante. Puis il se produisit un choc, un bref assaut contre les défenses psychiques du mulet, suivi d'une retraite. D'une voix grinçante, avec une expression de fureur rendue d'autant plus ridicule par sa maigre constitution, il dit alors « Tiens donc, encore un qui vient me saluer. » Avec une agilité mentale consommée, il darda aussitôt ses tentacules psychiques, explorant les couloirs, les pièces attenantes, plus loin, toujours plus loin. « Vous êtes seul, » dit-il. Le premier orateur l'interrompit, en affirmant. « Je suis complètement seul. Il est nécessaire. Que je sois seul, puisque c'est moi qui me suis trompé en calculant votre avenir il y a 5 ans. J'aurais éprouvé une certaine satisfaction à réparer mon erreur sans aucune aide. Malheureusement, je n'avais pas compté avec la puissance du champ de répulsion émotionnelle que vous avez édifié autour de ce bâtiment. Je vous félicite. C'est du bon travail.
Gardez donc vos compliments, je n'en ai que faire, répondit l'autre d'un ton rogue. Êtes-vous venu soutenir de votre étai moral cette pile branlante de votre royaume?
Le premier orateur dit en souriant.
Mais, Bail Chanis s'est fort bien tiré de sa mission. D'autant plus qu'il n'était pas de force et de loin à lutter avec vous sur le plan psychique. Je vois bien, évidemment, que vous l'avez malmené. Mais il se peut que nous soyons encore en mesure de lui rendre la pleine possession de ses facultés. C'est un brave, sachez-le. Il s'est porté volontaire pour cette mission, tout en sachant pertinemment qu'il avait les plus grandes chances, selon nos prévisions mathématiques, de subir de sérieux dommages psychiques. Perspective infiniment plus inquiétante que de risquer de se voir infliger une simple infirmité corporelle. L'esprit de Chanis s'agitait en vains efforts pour s'exprimer. Il aurait voulu jeter un cri d'alarme, mais en était incapable. Il ne pouvait qu'émettre un flot continu de la peur encore et toujours. Le mulet était calme.
« Naturellement, vous êtes au courant de la destruction de Finstellis. »
Je suis au courant. L'assaut de votre flotte était prévu.
Oui.
C'est fort possible, grimaça le mulet. Mais elle n'a pas été évitée, hein ?